Bonjour à tous. Je vais vous présenter le livre que j'ai lu, L'influence des croissants chauds sur la bonté humaine. C'est une œuvre de philosophie morale expérimentale, écrite par Ruven Augien, philosophe contemporain français. Mais la philosophie morale expérimentale, concrètement, c'est quoi? Pour vous l'expliquer, on va diviser cette appellation effrayante en deux beaucoup plus simples. La philosophie morale et la philosophie expérimentale. La première, très simple. Nous l'avons déjà étudié avec Kant. On va se demander si un acte est moral ou non et le justifier. On cherche donc à comprendre nos intuitions morales. On trouve deux courants principaux, le déontologisme, du grec déon, qui signifie devoir, qui est largement inspiré de Kant. Et d'après cette théorie, il existe des contraintes absolues sur nos actions, des choses qu'on ne devrait jamais faire. Ne pas mentir, ne pas traiter une personne comme un simple moyen, etc. Pour le conséquentialiste, ce qui compte moralement, ce n'est pas de respecter ses contraintes, mais de faire en sorte qu'il y ait au total le plus de bien ou le moins de mal possible pour tous. Ensuite, la philosophie expérimentale associe le questionnement philosophique habituel, le questionnement classique, à une étude scientifique empirique. Donc la philosophie morale expérimentale consiste à étudier les normes morales des sociétés à l'aide d'études de sciences humaines comme la sociologie par exemple, en essayant de comprendre pourquoi nous raisonnons de cette manière. Maintenant que vous êtes initié à ces notions, nous pouvons parler du livre. Il est divisé en deux parties. La première s'appelle « Problèmes, dilemmes et paradoxes, 19 casse-têtes moraux ». Il nous montre ici, à travers plusieurs fictions simples, comment nous réagissons face à plusieurs situations, et nous aide à comprendre comment fonctionne notre relation à la moralité. Chaque problème est présenté de la manière suivante. D'abord, il expose la situation, il présente les résultats, les problèmes que cela implique, et ce qu'on peut en tirer. Pour que ce soit plus clair pour vous, je vais vous donner un exemple. Vous imaginez la situation suivante. Vous vous baladez le long d'une voie de tramway, quand vous êtes témoin de cette scène. Vous comprenez vite que le conducteur de ce tramway, qui fonce à toute allure dans un wagon encaissé, a perdu connaissance. Vous voyez 5 traminots piégés sur la voie, qui seront inévitablement écrasés. Que faire? Par chance, il y a tout près de vous un levier d'aiguillage. Si vous l'actionnez, le tramway sera envoyé vers une voie secondaire. Mais, manque de chance, un autre tramino travaille sur cette voie. Donc si vous actionnez l'aiguillage, ce tramino sera inévitablement tué. Ici, nous confrontons donc au dilemme suivant. Ne pas intervenir et laisser les 5 traminos se faire écraser sur la voie principale, ou intervenir en actionnant le levier d'aiguillage et causer la mort du tramino. Ici, la plupart des gens trouvent moral le fait d'actionner le levier. Mais maintenant, changeons un petit peu les paramètres. Vous vous trouvez sur un pont piétonnier, quand vous voyez, sur la voie en contrebas, pareil, un tramway foncé à toute allure, et de l'autre côté du pont, 5 traminos qui travaillent. Vous comprenez que le tramway ne pourrait évidemment pas s'arrêter, mais vous avez assez de connaissances en physique pour savoir que si un objet massif était jeté à ce moment-là sur la voie, le tramway s'arrêterait inévitablement. Or, un gros homme, qui semble avoir le volume et le poids nécessaires, se trouve justement près de vous. Il est penché sur le parapet. Il attend pour voir passer le tram sans se douter de rien. Et il suffirait que vous le poussiez légèrement pour le faire basculer sur la voie. Donc arrêter le tramway et sauver les 5 personnes. Vous est-il permis, moralement, de le faire? Voici les résultats qu'il nous présente. Il semblerait que 89% de l'ensemble des gens ayant participé à l'étude soit prêt à actionner le levier. Cependant, seuls 11% des gens seraient prêts à faire basculer le gros homme. Ce que le premier résultat semble démontrer, c'est que nous serions profondément conséquentialistes. Il semblerait légitime de tuer une personne pour en sauver 5, même si cela implique de tuer cette personne, suite à un de nos actes. Mais c'est remis en question par le deuxième résultat. Ce deuxième résultat, lui, tend à montrer que nous serions grandement influencés par les fameuses règles universelles de Kant, telles que nous n'utiliserons pas une personne comme un simple moyen, ce qui est le cas ici lorsqu'on pousse le gros homme. Et donc en fait, dans toutes ces situations, Ruven Augien va nous présenter des dilemmes, et en changeant un simple paramètre, on remarque que les résultats changent totalement, alors que les conséquences sont similaires. Et donc c'est pour nous montrer comment nous fonctionnons par rapport à la morale. Et après, il montre les évolutions de toutes ces histoires qui ont été fruits d'une grande philosophie littéraire. Cette histoire du tramway a fait beaucoup d'essais, etc. Et chaque camp, donc les conséquentialistes et les déontologistes, essayent de défendre leurs idées. Les déontologistes disent que si nous ne poussons pas cet homme, c'est parce que cela revient à enfreindre les préceptes kantiens, comme je vous l'ai dit. Or, dans le premier cas, la personne sur l'autre voie, quand vous actionnez l'aiguillage, n'est pas un moyen, mais une simple victime collatérale. C'est donc pas un problème de le tuer, entre guillemets. Les conséquentialistes, eux, nous disent que si on ne pousse pas cet homme, c'est parce qu'on ne veut pas avoir un contact physique violent. On est naturellement contraint de ne pas vouloir le faire, donc on ne prend pas une décision raisonnable. Mais là où ce livre est captivant, c'est qu'il va changer encore d'autres détails pour essayer de comprendre profondément comment nous fonctionnons. On va donc introduire des nouveaux paramètres pour essayer de comprendre et de faire une analyse plus fine de notre raisonnement. Il faut donc imaginer la situation suivante. Vous êtes de retour face au levier. Le tramway fonce sur 5 traminaux, sauf que sur la seconde voie, fait une boucle et revient sur la première. Et sur cette seconde voie, dans la première version, il y a un traminot en train de travailler, et il est devant un objet massif qui arrêterait le tramway à coup sûr si le tramway a emprunté cette voie. Actionner le levier tue donc ce traminot, mais permet l'arrêt du tramway. Dans le second cas, si vous actionnez le levier, il y a le gros homme sur la voie, seulement lui. Mais le gros homme suffirait à arrêter le tramway. Donc, dans ces deux cas, lorsque vous actionnez le levier, vous sauvez les 5 traminots. Mais dans un cas, vous tuez le traminot et le tramway s'arrête grâce à un objet. Dans le deuxième cas, la personne corpulente meurt, mais arrête le tramway. On peut se dire que les résultats doivent être identiques, ça revient exactement à la même chose, fondamentalement. Enfin, il semblerait. Mais pas du tout. Il y a 20% de gens en moins qui seraient prêts à actionner le levier lorsque c'est la personne qui arrête le tramway et non l'objet. Cela revient à ce que je vous ai dit plus tôt, c'est-à-dire qu'on ne veut pas utiliser quelqu'un, une personne, comme un moyen. Or ici, si c'est le gros homme qui arrête le tramway lorsqu'il meurt, nous l'utilisons comme un moyen pour arrêter le tramway. Alors que dans le premier cas, c'est seulement une victime collatérale due au fait que le tramway doit s'arrêter, donc il doit percuter l'objet. Et c'est ça que j'ai trouvé captivant dans ce livre, c'est que finalement, quand on a une intuition face à quelque chose, savoir si c'est bien, pas bien, moral, immoral, on se dit quelque chose, donc ce qu'ils appellent des intuitions, en pouvant rarement les justifier. C'est assez flou dans notre esprit. Et en lisant ce livre, ça m'a aidé à comprendre comment on fonctionnait, etc. Donc c'était une lecture très agréable. Et ensuite, il y a la deuxième partie de ce livre, qui est une partie plus méthodologique, dans laquelle il nous donne ce qu'il appelle lui-même les ingrédients de la cuisine morale. L'idée majeure qu'il défend est la suivante. Il ne faut pas chercher à fonder la morale. Ce qu'il entend par la pluralité des préceptes, c'est la chose suivante. Ni les conséquentialistes, ni les déontologistes n'ont totalement raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité absolue en morale. Et même si dans l'exemple que je vous ai cité précédemment, il semblerait que les déontologistes aient raison, dans plein d'autres cas, les gens réagissent de manière conséquentialiste. Donc c'est un sujet en perpétuelle évolution et qui n'est pas fini. On n'a pas de réponse totale. C'est-à-dire que fondamentalement, on ne sait pas. Donc c'est un sujet qui est encore ouvert à la discussion. Et il nous invite d'ailleurs à remettre en question les règles élémentaires du raisonnement moral. Dans cette seconde partie, il nous montre aussi la faiblesse des fondements de nos intuitions, en montrant à quel point elles peuvent changer rapidement face à un tout petit élément perturbateur. Et il nous présente comment ces situations, qui pourraient sembler pourtant totalement abstraites, avec ces cas qui n'arriveront fondamentalement jamais dans la réalité, ils permettent néanmoins de traiter des cas éthiques actuels, des cas éthiques et moraux, dont par exemple l'avortement. Mais malheureusement, mon audio est déjà long. Donc je ne vais pas pouvoir vous parler de ce débat passionnant autour de l'avortement, mais je vous conseille vivement d'aller lire ce livre, si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, je vais conclure en vous donnant mon avis sur ce livre. Alors ce livre, je l'ai beaucoup aimé, pour plusieurs raisons. À la fois, c'est incroyablement intéressant, de par les remises en question de notre raisonnement qu'elle permet. C'est très agréable à lire, grâce à son aspect interactif, et c'est aussi très enrichissant sur le plan philosophique, de par toutes les notions et les connaissances qu'il nous apprend. Et en plus, si vous le lisez, vous pourrez comprendre pourquoi ce livre s'appelle comme ça, alors que ce titre peut sembler un peu intriguant. Merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne journée.